Bonsoir à tous et à toutes. Yacouba Ouidraogo donc avec vous. Ravi de vous retrouver pour Sporama sur VOA Afrique. Comme chaque semaine, nous revenons sur les résultats et les faits sportifs marquants. Nos consultants sont là pour vous apporter tout l'éclairage nécessaire. J'ai salué Élisée Nkpatine depuis Boyoukon au Bénin. Élisée, bonsoir.
Oui, bonsoir Yacouba et bonsoir à tous.
Avec nous également le doyen Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon. Jules, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous.
Nous allons avoir Emmanuel Jeunetap d'ici là, depuis Yaoundé au Cameroun. Mais en attendant, retrouvons dans l'Ohio, ici aux États-Unis, Amdine Si. Amdine, bonsoir.
Bonsoir Yacouba et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Merci à tous de votre présence et à vous, chers auditeurs, donc de rester à l'écoute. Nous parlons ce soir, bien évidemment, du dénouement de la CAN des moins de 23 ans Maroc 2023. Le pays hôte est sur le toit de l'Afrique. Finit donc la CAN des U23 et place à l'AfroCAN qui a débuté à Luanda en Angola. Nous parlerons bien sûr de basketball. Et puis vous le savez, la star du PSG, Kylian Mbappé, était en séjour au Cameroun natal de son père. Nous en parlons ce soir avec notre correspondant Emmanuel Jeunetap, comme je le disais, qui va nous rejoindre d'ici là. En attendant, le Maroc remporte donc la CAN des moins de 23 ans qualificative pour les Jeux Olympiques. Au terme d'une finale à rebondissement, les Lions de l'Atlas Espoir ont battu leurs homologues égyptiens 2-1. Après prolongation, le Maroc s'offre ainsi son premier titre dans l'histoire de cette compétition. Une finale difficile, nous dit le coach marocain.
Tout d'abord, on avait joué déjà un match 120 minutes. On avait 120 minutes dans les jambes et il y avait plusieurs joueurs qui avaient des petits problèmes physiques. Alors, avoir ça dans la tête, c'est pour ça que j'attendais. Je voulais pas trop vite aller mettre tous les points forts offensifs et peut-être prendre un contre-attaque. Parce qu'on sait que l'Égypte, ils ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour marquer. C'est une équipe aussi qui prend pas beaucoup de buts. Alors, c'était plus intelligent de continuer à construire, d'aller plutôt sur les flancs et d'essayer de mettre les joueurs qui sont forts avec la tête. Sur les phases arrêtées, on avait beaucoup travaillé aussi. Et je suis content que ça fait la différence aujourd'hui.
Voilà, Issam Charaï, coach du Maroc, au micro d'Amin Birouk, qui nous fait l'analyse de cette finale.
Je pense que la victoire de l'équipe du Maroc a été au forceps contre l'équipe d'Égypte lors d'une rencontre finale où les Égyptiens n'ont pas donné leur bras à tordre. Une équipe d'Égypte organisée, compacte, qui a réussi à prendre l'ascendant tout début de rencontre et à même ouvrir le score après une superbe frappe de 30 mètres dès les minutes initiales de la partie. Et puis il y a eu le tournant du match avec l'expulsion du buteur de cette équipe d'Égypte suite à une agression sur Samet Zezouli. L'intervention de la VAR a peut-être changé radicalement les donnes de cette finale, même si l'équipe du Maroc a eu du mal à se mettre en marche, même à 11 contre 10, il a fallu peut-être une petite interception de Bilal Khnous vers la fin de la première mi-temps, plus exactement aux alentours de la 37e, pour que le bloc égyptien se fissure pour la première fois de la compétition avec l'égalisation de Yanis Begraoui. Mais l'Égypte a résisté aux assauts désordonnés des Marocains. Il y avait d'un côté les individualités des Lions de l'Atlas et de l'autre le solide collectif des Pharaons. Et c'était un match où il y avait, je dirais, des choses qui allaient se décider sur des détails. Et finalement, c'est sur un coup franc indirect joué pendant la prolongation que le Havre Terreline a donné l'avantage à l'équipe du Maroc. Une équipe du Maroc qui remporte pour la première fois ce titre, qui se qualifie au même titre que l'Égypte et le Mali pour les Jeux Olympiques de Paris. Mais ça a été dur, ça a été laborieux. Et évidemment, le sélectionneur Issam Charaï va devoir revoir sa copie parce que le manque de vécu collectif a été évident, le manque d'automatisme aussi. La présence de trois joueurs de plus de 23 ans, expérimentés, rodés à ses joutes, va être nécessaire lors des Jeux de Paris. Il faut juste aussi préciser qu'il se déroule hors des dates FIFA et que la fédération marocaine, la fédération égyptienne, la fédération malienne vont devoir négocier de gré à gré avec les principaux clubs concernés afin que ces joueurs soient libérés courant juillet et pendant le mois d'août afin qu'ils puissent représenter leur pays au JO de Paris.
Alors, Élisée, comme l'Égypte, il y a 4 ans, il faut le dire, le Maroc est sacré devant son public. Est-ce que les Lions de l'Atlas font de bons champions?
Oui, on peut le dire comme ça, au vu de ce qui s'est passé
dans le match, puisqu'ils étaient véritablement malmenés. Le schéma mis en place par le sélectionneur égyptien a bien réussi, en témoigne le but marqué. Et puis après, le buteur qui se fait expulser, c'est le tournant de la rencontre. Amine l'a expliqué. Il faut dire, c'est une revanche aussi pour les Marocains, il faut le dire, puisqu'on se rappelle, il y a seulement un mois et demi ou deux mois, le national à la Ligue du Caire est venu gagner la Ligue des Champions, ou simplement est venu reprendre son bien chez le Wydad de Casablanca. Donc c'était véritablement dans une stupeur totale où ces Marocains n'ont rien compris à domicile. Donc il y avait une revanche à prendre, et chose faite, les Marocains l'ont fait, il faut le dire, puisque téméraires en contre les Égyptiens ont fini par craquer dans une ambiance très chaude du stade Moulay Abdallah de Rabat, ce fameux stade que j'ai la chance de visiter. Vous imaginez cette ambiance qui a fait craquer les Égyptiens, même en étant à 10, on ne continuait pas à poser de problème à ces Marocains. Donc c'était une victoire méritée, puisque les Marocains ont épuisé fond, au fin fond de leur réserve pour pouvoir inscrire ce second but sur un coup franc. Vous imaginez cette ambiance, vous imaginez la joie qu'anime ces joueurs. Donc c'est extraordinaire, ces Marocains ont mérité cette victoire, puisque c'est une victoire difficilement obtenue.
Jules, cette finale, ou que dis-je, ce duel nord-africain, a-t-il tenu toutes ses promesses?
Oui, il faut le dire. Et Yacouba, les spécialistes vous diront généralement que les matchs qui opposent des équipes ayant les mêmes dispositions tactiques, le même registre, donnent rarement des rencontres spectaculaires. Mais ici, c'est le scénario du match qui a plutôt accéléré les événements avec ce but matinal des Égyptiens, mais surtout la sortie du même buteur qui laisse l'Égypte à 10, alors que le dispositif égyptien était basé sur un collectif vraiment très organisé et très patient, qui attendait juste de trouver la faille pour marquer. Mais on peut dire que si au niveau de la qualité du jeu offert et de l'intensité émotionnelle, la finale a été agréable à suivre, il y a eu du suspense. Mais par contre, au niveau de la qualité même du jeu, il y a le match Mali-Maroc, par exemple, pour moi, était le plus spectaculaire. Et il y a aussi eu le match que les Guinéens ont produit face au Mali, qui m'a ramené dans les années 70, où le Afia et le Sili semaient la terreur en Afrique avec tous les gris-gris qu'on voyait sur le terrain. Bon, donc on peut dire qu'on a eu une bonne finale. Mais seulement la finale a été tronquée par le scénario de la rencontre qui a amené les Égyptiens à faire un match héroïque et à craquer finalement sur le deuxième but. Mais le Maroc est un bon vainqueur, il mérite en fin de compte son trophée au vu de son parcours général, mais aussi de la présence dans son effectif de quelques demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, même si certains n'ont pas joué.
Voilà, qui est bien dit, Jules Valentin Ngoué, donc qui nous replonge un peu dans l'histoire du Afia de la Guinée, bien sûr. Le Maroc, l'Égypte et le Mali, qui a remporté la petite finale vendredi, représenteront donc le continent africain au prochain jeu d'Olympique d'été à Paris en 2024. La Guinée, quatrième, peut toujours espérer se qualifier à condition de battre, bien sûr, en barrage, l'équipe qui occupera la quatrième place de la prochaine Coupe d'Asie des moins de 23 ans. Alors, Amdine, c'est dire, on a trois représentants africains déjà désignés. L'Afrique peut toujours avoir une quatrième place dans les prochains Jeux Olympiques Paris 2024.
Tout à fait, Yacouba. D'abord, on a trois hauts représentants, puisque si on regarde ce tournoi et on regarde la finale et les demi-finalistes, vraiment, c'est la crème du football africain au niveau des U23. On a eu droit à un très beau tournoi, à un beau champion qui est le Maroc, puisque le Maroc a un peu survolé ce tournoi en marquant 12 buts, en faisant des matchs extraordinaires. Et là, l'Égypte, de même en l'Égypte, qui c'était pas flamboyant du tout, mais une solide défense, une équipe expérimentée, des compétiteurs qui l'ont toujours prouvé. Et ensuite, il y a le Mali, le Mali qui a été la seule équipe à tenir la dragée haute, à tenir en effet cette équipe marocaine, puisque les Maliens ont perdu après la série de haut tir au but. Donc si on regarde les minutes, 120 minutes, c'est un match nul qu'ils ont décroché face aux champions à titre. Maintenant, il y a la Guinée qui n'a pas démérité, qui a perdu également face au Mali, à la série de Turobi. Je pense que c'est trois bons représentants et un potentiel quatrième, puisque la Guinée vraiment a montré de très bonnes choses durant ce tournoi. Et j'espère que la Guinée pourra faire comme le Sénégal l'avait fait en 2012 lors des Jeux Olympiques de Londres. C'était la même chose, c'était au Maroc. Et en troisième place, le Gabon avait battu le Sénégal. Et le Sénégal était obligé de passer par les barrages et le Sénégal avait battu le Qatar d'un certain Paul Le Guen. Donc je pense que la Guinée aussi peut le faire. Pourquoi pas quatre représentants lors des Jeux Olympiques de Paris. Moi, en tout cas, je le pense très sincèrement. Yacouba.
Voilà, Amdine, donc, qui y croit. Amine Birouk aussi revient sur le niveau d'ensemble de cette CAN des moins de 23 ans. On écoute.
Et aussi la belle qualification des Maliens. L'équipe du Mali a été un redoutable adversaire tout au long de la compétition. On a pu le constater, nous, Marocains, lors de la demi-finale où les Aigles ont poussé les Lions de l'Atlas dans leur dernier retranchement, égalisant à deux reprises, faisant passer des frissons d'inquiétude à chaque offensive face à la défense marocaine. Et ce n'est que la séance des tirs au but qui a fait décanter la balance en faveur de l'équipe du Maroc. Mais les Maliens ont su se ressaisir lors de la petite finale par le même exercice, celui des tirs au but face à une équipe de Guinée très imaginative, très chatoyante. Mais on a vu un collectif solide du Mali qui a su composter son ticket pour les JO pour la première fois depuis 20 ans, puisque la première et seule participation du Mali datait de l'édition 2004. La Guinée, elle, va devoir passer par l'épreuve de rattrapage, à savoir le barrage contre le quatrième asiatique, mais il y aura certainement beaucoup de temps pour peaufiner et préparer une sélection qui n'a jamais baissé les bras, qui a été l'illustration du talent qui existe dans l'ouest du continent, que ce soit au Mali ou en Guinée. Et ce qui est certain, c'est que cette équipe ne part pas battue d'avance face au quatrième asiatique, que l'on connaîtra après la Coupe d'Asie U23 qui aura lieu en début d'année prochaine. Et on saura quelles sont les forces en présence et on déterminera quelles sont également les chances de l'Afrique de briller lors de la prochaine compétition olympique à Paris.
Voilà, bien résumé. Ne bougez pas, vous suivez Sportama, suivez au Afrique. L'émission revient dans quelques secondes. L'AfroCAN, la Coupe d'Afrique des Nations de basket, a débuté ce week-end à Luanda, en Angola. 12 sélections, réparties donc dans 4 groupes, de 3 s'affrontent depuis samedi dans la capitale angolaise. Alors Amdine, pour commencer, c'est quoi cette compétition de l'AfroCAN?
Voilà, d'abord c'est la deuxième édition de l'AfroCAN. Vous l'avez dit, c'est la Coupe d'Afrique des Nations de basketball, mais réservée uniquement aux joueurs locaux. Cela veut dire que des joueurs qui jouent dans leur championnat. C'est un peu comme le champ au football. Je pense que c'est une bonne initiative. Maintenant, ça a démarré timidement la première édition. On est en train de vivre la deuxième édition. Je pense que cette compétition va grandir. Et vu les premières tendances, c'est une compétition quand même intéressante, Yacouba.
Voilà, l'AfroCAN, tout simplement, qui correspond au championnat d'Afrique des Nations en football. Déjà qualifié pour les quarts de finale, la République démocratique du Congo s'est imposée 77-58 devant le Mozambique. Les Congolais avaient déjà bien entamé la défense de leur titre par une victoire contre le Cameroun. Élisée, c'est dire que les tenants du titre congolais veulent conserver leur trophée.
Bien évidemment. Il faut le dire, puisque déjà avec une très belle entame dans cette compétition, grâce à cette victoire contre le Cameroun qui devait se ressaisir, mais face au Mozambique, bon, ce pays a été vaincu encore. La RDC qui revient à la charge en s'offrant les Mozambicains ce matin, c'est dire que Ilunga a déjà tout résumé pour eux, c'est bien sûr de remporter le trophée, puisque n'oublions pas l'absence de l'Égypte, l'Égypte avec ses deux grands clubs, le Zamalek et le National Al Ahly. N'oublions pas aussi l'absence du Sénégal qui a aussi un ténor du basketball africain. Donc les Congolais qui ont un bon championnat avec le TP Mazembe ou encore Espoir Basketball Club, vous imaginez, c'est un très bon championnat que les Congolais ont dû en profiter pour pouvoir sélectionner les meilleurs afin de venir du côté de Luanda. Donc les Congolais sont clairs, l'entraîneur l'a démontré clairement, lui, il est venu pour garder son bien et on espère, puisque en face la concurrence sera rude, hein. N'oublions pas que l'Angola évolue à domicile. L'Angola a été très longtemps champion d'Afrique, hein, optime champion d'Afrique, vous imaginez, avec des joueurs qui évoluent justement dans son championnat, quelques-uns qui quittaient l'Occident. Donc vous imaginez le championnat, les Angolais qui ont encore aussi un très bon championnat. Donc il y a aussi la Tunisie qui est présente, donc vous imaginez, la concurrence sera rude, mais attention à ces Congolais qui savent bien manier la balle au panier.
Alors, Jules, on parle des Congolais qui savent bien manier la balle. Aujourd'hui, le Kenya est tombé face au Gabon 63-66. Jules, si vous m'entendez. Voilà, et donc on a perdu un Jules Valentin Ngoué qu'on va essayer de retrouver, et Michel s'affaire à cela. Alors, Amdine, je le disais, et Élisée parlait, hein, des tenants du titre congolais qui sont déterminés à conserver leur trophée, mais aussi, il faut le remarquer, aujourd'hui par exemple, le Kenya est tombé face au Gabon 63-66. Et donc, on me signale que Gilles est de retour.
Oui, il faut le dire, la République du Congo est bien placée pour défendre son titre, mais ceci se joue, le match se joue en... Disons que la compétition se déroule en Angola et oppose essentiellement des équipes composées de joueurs nationaux et qui ne sont pas renforcés comme à la Basketball Africa League. Donc, nous aurons presque toujours les mêmes favoris qui vont se mettre en pointe. Mais nous avons l'Angola, nous avons la Tunisie et c'est sûr que cette compétition va nous rappeler qu'il y a un travail profond à faire d'abord au niveau du football africain et local. Au niveau du basketball, pardon. Africain.
Bien évidemment, du basketball local, qualifié donc pour les quarts de finale. Le Maroc et la Tunisie se sont affrontés dans un duel nord-africain soldé par la victoire des Tunisiens 67-52, sans incidence sur la qualification des Marocains. Amin Birouk.
Plusieurs années d'éclipse, l'équipe du Maroc de basketball, version locale, a réussi son entrée en matière contre le Rwanda. Et pourtant, c'était laborieux, puisque pendant une partie de la rencontre, cette formation a été dominée par un adversaire qui n'a nourri aucun complexe et qui a même mené de 15 points. Donc, il a fallu effectuer une vraie remontada pour revenir dans la partie et l'emporter sur le score de 59-57. Victoire in extremis des Marocains qui vont devoir batailler pour pouvoir finir premier de leur groupe. Il est vrai que cette formation manque de cohésion cruellement parce que le championnat a été arrêté pendant la période de Covid. Il y a eu beaucoup de conflits au sein de la fédération entre clubs rebelles et instances dirigeantes et ça nuit un peu à la qualité du basketball marocain. Aujourd'hui, il renaît petit à petit de ses cendres avec une formation, un mélange de joueurs expérimentés tels que Zouita et Khelfi qui approchent de la quarantaine et d'autres joueurs plus jeunes qui ont été les révélations de ce championnat. Mais le Maroc ne part pas pour gagner, le Maroc part pour apprendre, pour retrouver ses repères sur le plan continental et pourquoi pas en outsider créer une petite surprise. Mais on ne nourrit pas du côté de Casablanca ou de Rabat de gros espoirs sur cette équipe dans cette compétition.
Alors Amdine, le choc, hein, s'il faut l'appeler ainsi, entre le Nigeria et l'Angola vient de s'achever. Victoire sans appel, hein, des Angolais, 57-48, il fallait s'y attendre peut-être.
Oui, il fallait s'y attendre. Hein. Moi, j'ai suivi avec intérêt ce choc, puisque c'est un choc entre guillemets, hein, puisque le Nigeria, si on regarde au niveau du basket local, c'est pas tellement ça. Mais l'Angola, Jules l'a dit tantôt, d'ailleurs, l'Angola et la Tunisie sont les favoris quand même de cette compétition. Mais quand deux nations comme l'Angola et la Tunisie se rencontrent, c'est toujours un choc. En tout cas, on est en train d'assister à une bonne compétition où, vous l'avez dit, tantôt, la poule A, hein, c'est un peu serré avec le Kenya, la Côte d'Ivoire et le Gabon. Là-bas, chaque équipe a une victoire et une défaite, donc ce sera très difficile pour savoir quelles sont les équipes qui vont se qualifier. Par contre, vous l'avez dit, la RDC s'est déjà qualifiée, la Tunisie, le Maroc, l'Angola qui vient de battre le Nigeria s'est déjà qualifié. Par contre, moi, je suis un peu déçu par la performance du Mali, qui a concédé des défaites. Le Mali qui reste quand même un beau pays de basket avec des équipes de petite catégorie qui brillent au niveau du continent, avec une équipe qui s'est illustrée de fort belle manière lors de la dernière édition de la balle, mais je ne sais pas. Et Emmanuel l'a dit encore, ou bien c'est Jules qui l'a dit, ou Élisée. L'absence quand même des deux bons soirs du basket africain, comme l'Égypte, 5 titres au niveau des garçons, le Sénégal, 5 titres au niveau des garçons. Je pense que c'est une anomalie. Ces deux équipes doivent tout faire quand même pour participer à cette compétition, histoire de rehausser ce niveau. Mais bon, tant pis pour les absents. Les présents sont en train de nous régaler, Yacouba.
Bien évidemment, on se concentre sur les présents. Certaines équipes sont d'ores et déjà out. C'est le cas du Rwanda, hein, qui a concédé sa deuxième défaite, battu in extremis cette fois-ci par le Maroc, 59-58, tout comme le Mali et le Cameroun, défaits respectivement par le Nigeria, 62-56, et le Mozambique, 65-71. L'attaquant star du Paris Saint-Germain et capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé, a visité le Cameroun natal de son père. Nous en parlons avec notre correspondant direct de Yaoundé, Emmanuel Jelentap. Emmanuel, bonsoir.
Bonsoir Yacouba, bonsoir à tous les équipes.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que Kylian Mbappé est venu faire au Cameroun natal de son père et comment les Camerounais perçoivent cette visite de Mbappé?
Bon, je pense qu'il y a déjà une réponse à cette question dans une partie de votre question. C'est que Kylian Mbappé est venu découvrir le pays de son père, parce que son papa est d'origine camerounaise. C'était donc l'occasion pour lui de nouer un premier contact avec la terre qui a dû naître son papa. C'est d'ailleurs ce qu'il a déclaré. Il a dit qu'il avait toujours désiré arriver au Cameroun. Et si l'on s'en tient au propos de sa maman, c'est une visite qui était préparée d'avance. Le Cameroun a été choisi en premier lieu, puis par la suite, ça sera l'Algérie. On va aussi dire que Kylian Mbappé est venu au Cameroun pour présenter son projet d'ordre caritatif au gouvernement camerounais, mais également discuter avec quelques-uns de ses partenaires, parmi lesquels le fils de l'ancien président, lui aussi, franco-camerounais, Yannick Noir, les deux ambitions différentes des choses au Cameroun. Voilà un peu ce que Kylian Mbappé officiellement est venu faire au Cameroun.
Alors, Jules, très rapidement. Oui, allez-y, Emmanuel.
Maintenant, comment est-ce que les Camerounais perçoivent cette visite? Si on s'en tient au côté un peu populaire de cette visite de Kylian Mbappé au Cameroun, on va dire qu'il a été accueilli chaleureusement. Les Camerounais sont actuellement contents. C'est aussi pour beaucoup de Camerounais que leur pays est une terre fertile pour des grands footballeurs, même si Kylian ne joue pas pour les Lions et Lions qui sont cas. Donc, c'est une visite qui a été véritablement courue. Et d'ailleurs, il faut préciser, un match que Kylian Mbappé devait assister, non loin du domaine là où il habitait, à côté de Yannick Noir, a été annulé à cause d'une forte popularité. Il y a eu une masse de population ce jour-là. Pour les raisons de sécurité, on a dû annuler le match. Donc, c'est une preuve que, effectivement, les Camerounais ont apprécié cette visite.
Alors, Emmanuel, très rapidement, qu'est-ce qui est ressorti justement de cette visite en termes de projets présents et peut-être futurs pour le Cameroun? Très rapidement.
Alors, on va dire que Kylian Mbappé a dû laisser un peu avare en révélation au sujet des projets. Parce qu'on s'occupe de la rencontre avec le Premier ministre du Cameroun, la question lui a été adressée. Il a tout simplement dit qu'il y a beaucoup de projets, mais il a mentionné qu'il ne peut pas les détailler tout de suite. Mais nous avons suivi d'ici à là qu'il y a un projet qu'il voudrait bien implémenter au Cameroun avec le fils de Yannick Noah, au nord de la capitale, dans la ville de Bala. On n'en sait pas encore grand-chose avec précision. Dans tous les cas, il y a des projets de Kylian Mbappé qui arrivent au Cameroun, c'est ce qu'on fait actuellement.
Alors, justement, Emmanuel, je reste avec vous très rapidement. On n'a pas aperçu Kylian Mbappé avec le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Etofis. Qu'est-ce qui s'est passé?
Parce que déjà, Samuel Etofis n'était pas au Cameroun. Samuel Etofis avait son calendrier. Bon, maintenant, est-ce que les deux ont convenu de ce que la présence de l'un devait coïncider avec l'absence de l'autre? Ça, on ne le sait pas. Donc, effectivement, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, et Kylian Mbappé ne se sont pas rencontrés. Par contre, on a vu Mbappé avec Francis Ganou, on a vu Mbappé avec le fils du président de la République. On a aussi vu des anciens lions, des gars de la génération 90, tels que Joseph Antoine Bell, Valère Jonquet, avec Kylian Mbappé à Djellabé, au village là où Mbappé est allé se faire introniser et recevoir la bénédiction ancestrale. Oui, l'absence de Mbappé au côté de Samuel Eto'o a fait jaser quelques-uns. Le sujet a été suffisamment abordé sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que...
Voilà, c'est tout pour cette émission de Sporama. Ça va très vite. Merci donc à Emmanuel Jules Ntap depuis Yaoundé au Cameroun. Merci à Jules Valentin Gouin depuis Libreville. Merci à Élisée Amdinsi. Sporama s'achève. Merci à Michel Joseph qui a réalisé cette émission.